La technologie par ceux qui l'utilisent au travail comme à la maison. C'est Tech2 sur Radio Kawa.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Tech2 épisode 10, le podcast Radio Kawa qui regarde la technologie à travers ses usages, aussi bien au travail, dans la vie courante ou encore dans les loisirs. Je m'appelle Yann Rieder et comme à chaque épisode, je suis accompagné par mon camarade Franck Extanasier. Salut et bonne année Franck.
Hello et bonne année Yann, et bonne année à tous.
Ça fait vraiment plaisir de pouvoir commencer 2018 avec Tech2, comme ça on est prêt, on a déjà 9 épisodes dans la besace et c'est parti pour le 10e consacré au CES 2018, les produits, les projets, les prototypes qui ont attiré notre regard, de choses qu'on verrait bien intégrées dans la vie courante, que ce soit de la nôtre ou de nos proches, on vous en parlera pendant le dossier. Nos réponses à vos questions, celles que vous nous avez envoyées à Tech2RK sur Twitter ou par mail
à tech2@radiokawa.com.
Et ainsi que le suivi, tout ça c'est dans la mise à jour, la rubrique interactive de l'émission en fin d'épisode. Mais tout d'abord, c'est l'heure de notre actualité. Et notre actualité Franck, elle commence enfin. Tu peux taper, attention, je vais faire le bruit. Là c'est le mien, et le tien ça fait quoi?
Ah le mien, je vais le rapprocher de mon micro, mais ça fait un petit truc du genre... Mon rire satanique, évidemment, qui fait des HGFK, GFK. J'ai enfin reçu mon clavier mécanique. Enfin, surtout les touches de clavier mécanique que je n'avais pas reçues de chez AliExpress depuis 7 semaines. Et ça a été extrêmement long, donc 52 jours d'attente. Et donc, du coup, je vais pouvoir vous parler de ce petit bébé que j'ai attendu pendant plusieurs semaines, voire mois, et que j'ai espéré pendant des années. Alors pourquoi c'est un clavier particulier? C'est un clavier de marque WASD, donc WASD, de format TKL ou Ten Keyless. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de pavé numérique sur le côté, donc sur le côté droit. Mm-hmm. Et le 7 a quelque chose de particulier, c'est que c'est un profil DSA. Alors qu'est-ce que c'est le profil DSA? C'est un profil de touche où chaque rangée de votre clavier, donc depuis les rangées de Escape F1 jusque tout en bas Control, sont à la même hauteur. Donc ça veut dire que votre clavier normal dispose d'un profil où les rangées ont des tailles différentes. Mmh. Ces touches-là sont toutes totalement plates. Et en plus, donc déjà c'est un peu particulier, mais c'est très agréable. Et en plus, elles sont faites d'un matériau, donc du polytéréphtalate de butylène, le polytéréphtalate de butylène, donc le PBT, qui est un plastique qui est très épais. En plus, c'est ce qu'on appelle du double shot, c'est-à-dire qu'il y a une première couche pour en englober le corps et une deuxième couche pour créer la touche. Donc ils sont très solides, qui est légèrement rugueux et c'est du pur bonheur. Du côté du clavier, les switches, donc les vraies touches du clavier, ce qui fait l'appui sur la touche, sont des Cherry MX Clear, dont la frappe est plus lourde que le MX Brown, qui est devenu aujourd'hui une référence pour la plupart des vendeurs de claviers et des fabricants. Ça me convient beaucoup mieux que le MX Brown que j'aimais déjà beaucoup et que j'aime beaucoup toujours pour jouer. Mais pour frapper, c'est mieux, c'est un peu plus lourd. Donc je vous mettrai le lien pour que vous compreniez les forces qu'on appelle la force d'actuation, c'est-à-dire un appui sur la touche qui demande plus de poids. Là, on est aux alentours de 65 grammes pour celui-là. Mm-hmm. Et donc, ça permet de mieux taper. Moi qui écris beaucoup, c'est quand même cool. Et surtout, petite surprise, comme j'ai plus de force à imprimer sur chaque touche, pour appuyer, j'appuie moins longtemps et j'appuie moins profond sur mon clavier, donc je fais moins de bruit. Ah. Et j'en suis très très content. Et je vous mettrai une photo, comme ça vous verrez à quel point il peut être laid, parce que certains le trouvent très laid, alors que je le trouve très beau.
Ces différents styles, évidemment, ça ressemble parfois, souvent, à des claviers de monteur. Je trouve que les touches sont extrêmement colorées.
Ah, le mien, il est noir, blanc et orange, qui sont aussi les couleurs de mon chat.
C'est bien, bravo. Joli choix, effectivement. Et puis, enfin, il est arrivé, enfin, cette saga est terminée.
Oui.
À suivre, évidemment, le jour où on fera un épisode consacré au clavier et où je vous montrerai que je suis un monstre, puisque je n'ai aucun goût.
Hérétique.
Exactement, j'ai passé des années avec un clavier qui venait d'un PC assemblé. C'est complètement ridicule. Mauvaise nouvelle du côté d'iOS, puisque panique, les développeurs de nombreuses activités, de nombreuses applications pro, y compris Transmit, eh bien, ont décidé d'arrêter cette application-là, justement, qui est un client FTP. Un client FTP, ça sert à quoi? En deux mots, ça sert à se connecter à un serveur, autrement dit, à se connecter, par exemple, là où se trouvent vos fichiers sur Internet ou votre site Internet. C'est bien dommage parce que c'est clairement le meilleur client FTP sur iOS. On peut espérer qu'Apple intègre un jour une fonctionnalité équivalente à l'application fichier fichiers sur iOS 11, ou alors que Panic trouve un moyen de monétiser l'application un petit peu mieux, mais pour l'instant, comme ils n'arrivent pas à, comment dire, monétiser justement suffisamment pour que les gens qui travaillent activement aux mises à jour, là encore récemment par exemple pour l'iPhone X, de faire en sorte que ça s'affiche bien sur le nouvel écran, pour pouvoir continuer à développer en fonction des évolutions du système et en fonction des évolutions technologiques vis-à-vis des serveurs, voilà, c'est un petit peu dommage qu'on se retrouve bientôt qu'avec des applications moins bonnes sur ces appareils-là, d'autant plus qu'avec des iPhones à plus de 1000 balles et avec des iPads qui se qualifient eux-mêmes de pro, c'est quand même un petit peu dommage de voir justement un des meilleurs développeurs d'applications pro de l'écosystème Apple se retirer un peu plus de l'iPad. C'est vraiment regrettable. De l'iPad,
c'est un peu
et évidemment,
pour toi aussi.
Et évidemment de l'iPhone. C'est regrettable pour moi. Alors, bon, il est toujours possible de faire tourner le truc et tant qu'il n'y a aucune mise à jour d'Apple du système qui cassera la fonctionnalité de l'application, tout ira bien. Mais je trouve quand même regrettable ce manque de support à la fois d'Apple pour ses développeurs pro, pas plus de mise en avant peut-être, pas plus d'aide d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils en ont franchement besoin, des applications qui coûtent si cher justement à entretenir et qui sont liées à un si petit public, mais qui pour autant, aide les professionnels, aide les gens qui veulent sauter le pas, passer d'un ordinateur à un iPad. Ça peut être très intéressant, mais faut-il encore que l'offre logicielle suive ? Vous pouvez voir sur le blog de Panic les raisons détaillées pour lesquelles ils arrêtent. Mais voilà, la raison principale, c'est très franchement le pognon, puisqu'il est question de monétiser ça, et c'est beaucoup plus difficile à monétiser qu'un Snapchat, le saviez-vous ? Très bien, en parlant d'argent, Franck, les soldes sont là et du coup, quelques petits conseils, quelques petits clins d'œil.
Ah c'est les soldes et c'est aussi donc une bonne période en fait pour pouvoir changer, renouveler ou carrément refaire sa machine ou ses périphériques. Donc il y a beaucoup de produits hardware et de périphériques qui sont en solde en ce moment. C'est un bon moment pour prendre le temps de regarder si on peut faire quelques upgrades. Alors on trouve de tout, il y a pas mal de claviers, de disques durs, de processeurs, notamment du Ryzen en promotion, du Ryzen 5, du Ryzen 7. Le problème là, c'est qu'il n'y a pas de baisse significative sur la RAM, qui atteint désormais 220€ en moyenne pour 16Go de DDR4. Donc ne soyez pas fous, prenez du 16Go si vous en avez besoin ou si vous avez vraiment les moyens. Et sinon, vous allez devoir tirer un peu sur la corde avec 8Go et surtout, prenez la moins chère possible. Parce que là, sur du 220, voire sur certaines barrettes qui montent encore plus haut, on atteint les 250€, qui est le prix d'un très bon processeur Ryzen. J'ai envie de dire au secours.
Bien, merci pour ces petits relevés. Au niveau des soldes, en gros, gardez un œil sur ce qui vous intéresse tout au long de l'année, pour être très honnête, puisque c'est très souvent maintenant que les gros retailers réduisent certains prix de manière un petit peu aléatoire, font apparaître certains produits également de manière assez aléatoire. Je me souviens notamment du Google Home Mini qui était apparu en Suisse pour aucune bonne raison. Simplement, ils ont réussi à avoir un peu de stock et du coup, ils l'ont mis en place alors qu'il n'est pas vraiment sorti en Suisse. Donc, un des bons conseils par rapport à ça en général, d'ailleurs, c'est simplement d'ouvrir les yeux et de surveiller ce qui vous intéresse. Et également, de pas non plus craquer pour des trucs qui ne vous sont pas véritablement utiles.
Toujours.
Pour la simple raison que c'est à un prix beaucoup plus bas. Vous n'avez pas besoin d'un troisième écran si vous n'en avez pas besoin, même s'il est à 50 balles. Voilà. Ça, c'était également un petit point de mon côté. La saga clavier, c'est une chose. C'est une saga signée Franck. La saga iPad, c'est ma petite saga. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques épisodes, j'avais confié mon iPad Air 2 vieillissant à mon bien-aimé père. Il avait beaucoup apprécié l'expérience. Moi, j'avais tenté de voir si je pouvais travailler, passer ma semaine sans iPad après en avoir depuis des années et des années. Il s'est avéré que même si c'était une expérience intéressante, le manque s'est fait sentir. C'est quand même bien utile pour certaines choses. Et donc, j'ai de nouveau confié mon iPad Air 2 à mon père et je me suis procuré, les fêtes aidant, un iPad Pro 10.5 pouces avec iOS 11. Alors, j'en parlerai probablement plus en longueur dans d'autres épisodes quand un dossier s'y prêtera mieux, mais j'aimerais quand même dire que le multitasking, donc le multitâche d'iOS 11, la possibilité non seulement d'avoir plusieurs applications, mais en plus de pouvoir passer de l'une à l'autre très facilement, c'est vraiment très utile. Autant le copier, le glisser-déposer qui sert de copier-coller, c'est sympa, mais c'est pas encore, à mon avis, complètement au point vu que le geste est assez difficile à deviner. Il faut appuyer sur l'écran un certain temps jusqu'à ce puisque la portion qu'on prend se soulève puis on le lit sur l'autre. C'est pas encore au top à mon avis, parce que ça ne sert juste qu'un simple copier-coller, soit d'un string de texte, soit d'une image, soit d'un fichier. Non, la vraie star pour moi c'est le doc. Puisque désormais, il est possible à l'intérieur d'une application de faire apparaître le doc en glissant de bas en haut. Ce qui avant était Control Center pour pouvoir modifier le volume, pour pouvoir modifier la luminosité, etc. En fait, a laissé sa place au doc qui contient d'une part jusqu'à 13 applications ou dossiers que vous y mettez, et puis d'autre part, jusqu'à 3 applications qui font partie des 3 applications ouvertes le plus récemment. Ce qui est extrêmement utile puisque vous n'avez plus ensuite quoi, soit qu'à taper sur l'application que vous voulez pour vous y lancer, soit, et c'est encore mieux, de le glisser-déposer dans une partie de l'écran pour décider de la mettre à gauche, à droite ou même en surimpression. Et là aussi, différence avec iOS 10, dans ce cas-là, toutes les applications sont actives. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'appuyer une première fois dans l'application pour qu'elle soit active et une deuxième fois pour pouvoir interagir avec. Le simple fait de taper dessus vous permet de toucher un menu, de toucher une zone de texte pour faire apparaître le clavier, tout et n'importe quoi. C'est vraiment réussi, ça permet véritablement de travailler dans de meilleures conditions quand on décide de se mettre à travailler avec un iPad, ce qui, à mon avis, est bien pratique quand on a envie de se concentrer sur une tâche en particulier. Je trouve cette expérience-là extrêmement chouette pour cela et pour des cas de figure que j'aurai l'occasion de développer, je le disais, lors d'autres épisodes, j'en suis bien sûr. Actualité oblige, Franck, une brève rapide à propos des failles de sécurité qui concernent les processeurs.
Oui, alors tout le monde a entendu parler ces 15 derniers jours des failles Meltdown et Spectre. Et il est utile et important de rappeler qu'il faut s'informer auprès des bonnes personnes et non pas de quotidien, par exemple, et de faire vos mises à jour. Surtout, très important, si quelqu'un vous dit « Oui, ne fais pas ta mise à jour parce qu'après ça a fonctionné moins bien », déjà, il vous raconte des conneries. Ensuite, c'est un imbécile. Et troisièmement, il met en danger votre machine. Et pas que votre machine, il vous met vous en première ligne en danger. Parce qu'un PC, si vous n'avez pas, comme on en a déjà parlé, de logiciel de gestion de mots de passe comme 1Password, LastPass ou KeePass, et que vous enregistrez vos mots de passe, par exemple, grâce à Google Chrome, tout simplement, et que vous ne mettez pas à jour votre PC, eh bien, rien n'empêche un petit piratin mal intentionné de piquer tous vos mots de passe, y compris vos numéros de carte bleue, pour accéder, par exemple, à votre compte Amazon, et de commander des choses à votre place, par exemple. Donc, faites vos mages PC, sur vos portables aussi, sur les téléphones portables, c'est très important, vous le faites parce qu'il y a plein de mots de passe, l'autoconnect de Facebook, votre autoconnect de Twitter, votre autoconnect au Google Play Store par exemple.
Vos informations de carte bancaire,
voilà.
Très souvent.
Donc vos mises à jour de portables, les consoles de jeux, s'il y en a, vous ferez vos mises à jour quand on vous les proposera, vos NUC, vos NAS, les serveurs aussi, si vous avez, vous avez une boîte où il y a des serveurs, mettez à jour les serveurs aussi. Demandez à votre IT de le faire, parce que si vous n'êtes pas à jour, vous êtes vulnérable.
Fun fact, les Raspberry Pi ne sont pas concernés.
Les Raspberry Pi ne sont pas concernés. Ce qui est assez drôle. Et là, je pense à notre ami Morty qui a un serveur monté avec des Raspberry Pi, mais qui en chie quand même parce qu'il aime les trucs difficiles. Et si j'en entends un, juste un truc, si j'en entends un qui me sort que l'obsolescence programmée, gna gna gna, Yann Barthès, gna gna gna, ça va chier des feux d'artifice. Faites vos mises à jour, vraiment, c'est pour votre sécurité. On n'est pas là pour faire les paternalistes, vous engueuler ou machin, mais on pense avant tout à votre sécurité. Et pour ma part, c'est mon boulot depuis longtemps, on vous garantit, vos PC de maison ne seront pas vraiment touchés par la baisse de puissance, et c'est minimal, c'est 5-10% peut-être, grand maximum, il faut encore attendre pour les mesures. Par contre, au niveau des serveurs de calcul, des serveurs de base de données, là par contre ça peut être la merde, donc il faut tout mettre à jour. Il faut tout mettre à jour, protégez-vous. C'est un peu le principe de « Ah oui, mais moi, les autres sont vaccinés, j'ai pas besoin de me vacciner. » C'est comme ça qu'on chope Ebola. Donc non.
Globalement, de toute façon, sur la question des mises à jour et de l'obsolescence programmée, je crois que c'est un combat qui se sert de quelque chose de complètement malheureux pour faire avancer sa cause, alors que c'est pas du tout la question. Là, il s'agit non pas d'une mise à jour de fonctionnalité qui va amener de la réduction de performance, mais véritablement une mise à jour de sécurité qui va faire changer le fonctionnement des processeurs.
C'est ça. Donc, il y a une baisse de performance à cause de ce changement de fonctionnement. C'est tout.
Intel fait pas ça de gaieté de cœur, déjà.
Ah non, s'ils avaient pas...
sont sur une roadmap extrêmement lente en ce qui concerne la proposition simplement de processeurs plus puissants, de puissance de calcul plus intéressante de génération en génération. Déjà que là, c'est un petit peu compliqué pour eux. Qu'ils aient à revenir en arrière en termes de performance à cause de cette énorme faille, à cause de ce, je vais pas dire de ce trou béant, mais en tout cas à cause de cette immunodéficience finalement des processeurs en quelque sorte, il y a vraiment besoin pour eux de le faire.
AMD et Calcom,
sinon ça va être pire, mais c'est pas
aussi.
De gaieté de cœur.
Bah, AMD et Qualcomm sont touchés aussi, donc de toute façon, c'est pas, même si Intel, voilà, c'est le fabricant, le fondeur de processeurs au monde, AMD est touché dans une moindre mesure, Qualcomm est aussi touché, donc sur les processeurs Snapdragon, ça évidemment, les processeurs de portables sont touchés aussi, donc il n'y a pas de raison, vous faites vos mises à jour, vous vous protégez, tout simplement.
Et puis, ça va peut-être intéresser les gens au niveau technique, j'ai une seconde brève qui concerne le flux podcast, oui, ce flux podcast-là que vous êtes probablement en train d'utiliser pour télécharger les épisodes de Tech2, le petit fichier .xml, et bien sachez que comme celui de la cartouche, il est désormais aux nouvelles normes, ça m'a pris 30 secondes à mettre en place, c'était très simple, comme quoi éditer ses propres flux podcast en XML, c'est quand même très chouette. Voilà, nous revenons dans un instant pour vous parler dans le dossier du CES 2018.
Bonjour à tous, je suis Amo et je présente Kaorin, le podcast musical de la culture visuelle japonaise. Animation japonaise, jeux vidéo, doujin music, on vous fait écouter la musique et on vous présente les œuvres, les artistes et les compositeurs. Tous les genres, toutes les époques, tous les styles, avec pour seul objectif celui de vous aider à explorer la grande variété des œuvres japonaises. Kaorin, c'est un mardi sur deux, et c'est sur Radio Kawa.
Nous sommes de retour dans Tech2, le dossier CES 2018, c'est maintenant. Franck, on n'y était pas, par contre, on a bien suivi ce qui y était passé, on a relevé ce qui nous intéressait, en bien et parfois en moins bien, et tu commences avec quelque chose qui a attiré mon attention, que j'ai des choses à dire également sur le sujet, il s'agit de Razer Project Linda.
Alors ça, ça a été l'un de mes gros intérêts de ce CES, hein, tout simplement, puisque c'est un laptop, un PC portable qui fonctionne avec un téléphone que l'on intègre à la place, donc un Razer Phone, hein, le téléphone de chez Razer, que l'on intègre à la place du touchpad du PC, donc qui s'emboîte avec un petit bouton qui fait apparaître une petite prise USB-C à l'intérieur, et quand on rappuie, on déloque le téléphone et on peut le ressortir. C'est très intéressant, bien que fonctionnant uniquement pour l'instant avec un Razer Phone, et Razer étant toujours un grand nom en matière de périphériques, pour moi, c'est dommage. Le concept pourrait tout de même être une évolution dans les prochaines années à venir et arriver à devenir quelque chose de vraiment intéressant. Si l'idée n'est en rien nouvelle, parce qu'on a déjà eu des trucs de ce type, Microsoft avait présenté le Windows Phone PC et les petits boîtiers PC, on est toujours sur la même idée, on arrive à la renouveler petit à petit, mais je me dis qu'une simple évolution à base d'un iPhone et d'un corps similaire à un MacBook pourrait être un combo très juteux pour Apple. C'est notamment ça. Grâce à la bibliothèque de logiciels qui est bien plus riche que l'actuel store Android qui équipe le Razer Phone. Petit bonus, Yann, testé par Numérama et d'autres confrères français, Linda peut être connectée au service Shadow, service de cloud computing et de cloud gaming Shadow, qui devient de fait un véritable PC de jeu dans un corps ultra mobile et léger, le tout dans un nuage, et comme un nuage.
C'est intéressant parce qu'effectivement, d'autres entreprises s'étaient lancées sur ce segment-là. On se souvient de Microsoft Windows avec le projet Continuum, qui avait concerné certains téléphones Nokia Lumia. On se souvient également, beaucoup plus récemment, de Samsung avec le DeX, le petit dock sur lequel tu peux poser ton Galaxy et qui t'affiche, on va dire, un système d'exploitation rudimentaire sur un écran d'ordinateur branché en HDMI au dock. Et voilà, vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce qu'on voit là le futur à la fois en termes d'informatique grand public. Ça peut être très pratique de passer de l'ordinateur qui, de toute façon, est celui que les gens utilisent le plus, le téléphone, à un ordinateur de bureau pour la plupart des usages, conventionnels, traitement de texte, emailing, etc. Et puis, d'autre part, c'est intéressant parce que pour les pays en voie de développement, ça permet non pas d'avoir trois machines, mais d'en avoir une, d'avoir un téléphone, et qui sait, d'ici 2 ans, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, avec la puissance vraiment montante, je ne vais pas dire exponentielle, mais en tout cas avec l'évolution intéressante des performances sur le marché mobile, d'avoir des machines pas trop chères mais qui soient quand même relativement décentes pour encore une fois faire du travail correct. La question qui reste en fait, et c'est le problème du Razer Project Linda, c'est le système d'exploitation qui est à l'intérieur. Tu le soulevais tout à l'heure avec le store Android. Avoir Android sur un écran rien qu'en un écran 16:9 en 1920x1080, c'est pas super intéressant. Quand tu regardes l'interface, tu te demandes un petit peu ce qui se passe, et c'est pour ça que moi j'ai toujours eu plus foi, alors Microsoft non, hein, mais j'ai toujours eu plus foi dans le projet Continuum, puisqu'il était vraiment question avec Windows 10 de partir sur la même base entre le téléphone, la tablette et l'ordinateur de bureau, et j'ai vraiment hâte de voir, on va dire, ce que Microsoft pourrait un jour faire en repensant cette idée plus tard, parce que je pense véritablement que ce sont eux qui sont les plus prêts à le faire. Apple a beaucoup de mal à imaginer par exemple un ordinateur normal avec un écran tactile. Les rumeurs qui concernent un rapprochement d'iOS et de macOS et de la base logicielle partiraient quand même sur des périphériques de pointage côté Mac toujours les mêmes, c'est-à-dire souris et trackpad. À mon avis, ceux qui sont le plus en mesure de le faire, c'est soit Windows, soit quelque chose qui aurait à voir avec Linux, et tout le monde développerait ses propres applications. Mais là aussi, le terme grand public, ce serait un peu plus compliqué par rapport aux géants commerciaux que sont Microsoft et Apple. Donc, c'est un terrain d'exploration super intéressant pour l'avenir, et j'ai vraiment hâte de voir cela évoluer. Là, évidemment, Razer le considère comme un projet et pas comme autre chose, mais ça va dans un sens que je trouve fichtrement intéressant, en tout cas fichtrement osé, d'autant que ce laptop dans lequel on branche le téléphone, il n'y a pas grand-chose dedans, hein, y a juste une batterie, un clavier, une caméra, des ports, puis c'est tout. Voilà, c'est juste ça. Et c'est intéressant finalement d'avoir la perspective remontée, d'avoir le cerveau du laptop. Ça rappelle également d'ailleurs ces laptops qui pouvaient se mettre dans des bases qui devenaient des ordinateurs de bureau.
Oui.
Qui étaient en fait de géantes disquettes. C'est-à-dire que c'était des disquettes qui te tenaient évidemment dans deux mains. Mais l'idée, c'est que tu glissais ton laptop à l'intérieur d'une base et ça devenait un ordinateur de bureau. C'est un concept intéressant qui revit finalement de cette manière-là avec ce projet Linda. Bon, bien. Écoute, on passe à une deuxième évolution sur laquelle je pense qu'on va garder les yeux. Ce sont les écrans de télévision, mais un petit peu particuliers.
Ah, il y a de tout. Alors, écran de télé, écran PC, écran pliable, projecteur. La mode a été aux écrans géants déroulables en 4K, 8K sur 65 pouces, 88 pouces ou bien plus. Si Nvidia se démarque avec un écran là, un écran 65 pouces 4K 120 Hz, qui n'est pas un écran mais un gaming device afin de contourner les lois et les régulations américaines, LG quant à lui va jouer ses atouts waouh avec un 88 pouces OLED enroulable dans un petit caisson, et ça c'est quand même super sexy, il faut bien le dire. Bon, je note quand même qu'avant tout, peu de produits sont directement vendables en l'état présent. Soit par un besoin primaire de réduction de coûts, parce que ça coûte actuellement extrêmement cher à faire, soit par des besoins de R&D ou de design, notamment par exemple pour l'écran Nvidia, qui est relativement moche et épais. Mais définitivement, les choses avancent dans le bon sens. Sur le Super Ultra HD 4K, 8K, et peut-être même 12, voire 20K plus tard. Mais on a quand même de très très belles avancées. En attendant, pour ma part, hein, je vais vous conseiller un écran, un bon 1080p ou un 2K 2560 par 1080 ou 1440 par exemple. Un 1440, c'est très bien, en 144 Hz. Ils sont en pleine baisse de prix actuellement et de bonne facture globale. Donc, ça peut vous tenir 5 ans sans aucun souci.
Pour moi, ce qui m'a vraiment attiré l'attention, c'est véritablement l'écran roulable d'LG.
Il est fabuleux.
Qui se déplie, qui se replie à l'intérieur de son caisson. Je trouve ça dingue, et je trouve véritablement que c'est là en fait la prochaine évolution des écrans. C'est la question de prendre moins de place, tout simplement. Alors on l'a déjà vu avec certains écrans qui sont qualifiés de wallpaper, c'est-à-dire véritablement d'écrans extrêmement plats, collés au mur, dont en fait toutes les extensions, tous les branchements sont dans un espèce de dans une barre qui diffuse le son et qui en même temps permet de connecter le HDMI, le composant, etc. La Péritel peut-être, si c'est possible encore
il
aujourd'hui.
Il en reste encore.
Ou en tout cas l'adaptateur HDMI vers Raspberry Tel. Mais ça, c'est un premier pas. Mais à mon avis, le vrai avancement, effectivement, c'est ça. Et imaginez tous les form factors qui vont pouvoir exister. Imaginez un jour pouvoir déplier votre écran de votre sac quand vous êtes en déplacement et de pouvoir avoir votre laptop avec un second écran. Par exemple, moi, voilà, en présentant une émission, par exemple, en je sais pas, pour plein de monde, ça peut être extrêmement utile d'avoir ce second écran à proposer à quelqu'un dans une agence, par exemple, dans une agence bancaire. Quand tu as envie de montrer quelque chose à quelqu'un, tu pourrais tout à fait sortir un deuxième petit écran que tu poses comme ça, pouf, devant quelqu'un pour lui montrer ça. En plus, si l'écran est tactile, ça lui permettrait d'être guidé, de pouvoir lui-même choisir différentes options dans ce qu'il fait. Donc, également dans le domaine de la vente, je trouve vraiment intéressant les évolutions et les usages qui pourraient se mettre à exister avec des écrans qui soient aussi faciles à mettre en place. Aujourd'hui, on vous dit transporte un écran d'un côté à l'autre du pays. C'est pénible, tu vas le mettre dans une voiture, tu vas le voir mettre dans un gros sac et puis le voyager avec, etc. Le jour où il sera possible de voyager tranquillement avec des écrans, je pense véritablement qu'on aura fait un énorme pas en avant. Je sais qu'il existe des prototypes et des petits produits aujourd'hui, mais c'est clairement pas mainstream, ça reste cher, ça reste pas très pratique. J'attends vraiment de voir la chose évoluer encore mieux dans les années qui viennent, et je pense vraiment que c'est passionnant.
Voilà. C'est un tour de force de la part d'LG, il faut quand même le dire, parce que LG avait déjà présenté des écrans flexibles OLED sur des prototypes de téléphones, sur des prototypes de téléphones intégrés à des vêtements aussi, puisque ton écran flexible, tu peux le mettre sur une manche, par exemple, une manche de parka, ce genre de choses. Mais le problème, enfin le petit reproche qu'on leur faisait, c'était oui, c'est vachement bien, mais ce sont des petits écrans. Là, LG a débarqué au CES avec un écran de 88 pouces, c'est-à-dire que s'il gère 88 pouces OLED pliable, roulable de cette manière, et qu'il le gère bien, toutes les tailles en dessous sont gérables. Ce qui veut dire que, imaginons, je ne sais pas, un écran de PC, comme tu le disais, un écran 24, 27 pouces, qui se roule comme un rien, qui se plie en 4, qui se met dans le sac, voilà, on peut aller très très vite et ça peut avancer très vite. Le problème, c'est que l'OLED, c'est pour l'instant très cher.
Effectivement, là aussi, il est temps de voir le moment que ça se produise en grande quantité et du coup que le prix baisse mécaniquement. Mon ami Franck, on passe à un troisième point. Là aussi, les deux, on a flashé là-dessus. C'est incroyable, je vais dire le nom, c'est le Asus ROG Bezel Free Kit. Alors, c'est de l'anglais, qu'est-ce que ça veut dire en français?
Alors, on dit Asus ROG, parce que ROG, voilà. Parce que c'est Republic of Gamer, mais ça fait ROG, donc ROG, R-O-G-U-E.
J'ai dit CES, j'aurais pu dire CES, effectivement, Consumer Electronic Show, hein. C'est l'endroit où les journalistes vont se retrouver pour voir des trucs qui ne seront jamais sur le marché ou alors très très chers.
Et manger dans des restos à Vegas. Mais ça, c'est une histoire.
Non, c'est faux, évidemment, il y a des vrais produits qui en sortent. Mais
voilà.
Il y a aussi pas mal de bullshit qu'on vous évite, justement, en vous parlant des trucs les plus intéressants.
Ah oui, non, mais le Bezel Free Kit de chez Asus, ça a été mon plus gros effet waouh. Et c'est ridicule. C'est ridicule parce qu'on a parlé on vient de parler d'un écran de 88 pouces pliable et moi, mon plus gros effet waouh, c'est un truc super bête qui est composé de... Comment dire ?
D'une plaque et d'une lentille.
C'est ça, c'est des plaques avec des lentilles miroir qui se placent.
C'est des plaques pas très épaisses. Hein.
C'est du polymère
D'une largeur de 5-6 cm et d'une hauteur qui fait la hauteur d'un écran.
C'est ça, qui est apparemment qui peut être réglable un petit peu. Et tout simplement, pourquoi bezel ? Puisque tout simplement, ça se fixe. Vous prenez deux écrans, vous les mettez l'un à côté de l'autre. Vous coincez ces deux écrans avec le ROG Bezel Free Kit. Et là, d'un coup, vous ne voyez plus vos coins d'écran. Puisque l'image, grâce à un système de miroir, les images projetées des deux écrans se retrouvent au milieu. Et par un effet d'optique, vu que l'œil est une machine magnifique mais facilement trompable, vous vous retrouvez avec une jonction parfaite de vos deux écrans, voire de vos trois écrans.
Alors, parfaite, il faut quand même qu'on mette quelques
petits
holà là-dessus.
C'est un peu
c'est flou,
mais...
et surtout, ça réduit le contraste, en fait. C'est-à-dire que t'as une zone, parce que c'est le produit de la réfraction. Il y a une partie de la luminosité qui se perd dans le transfert. Et tout simplement, vous avez des zones un peu plus ternes et un peu plus floues sur les côtés, mais ça permet de garder, on va dire, l'illusion du mouvement, ce qui est très important. Je me souviens, par exemple, à l'époque, vous savez, la Nintendo DS est une console avec deux écrans. Les développeurs avaient fait l'effort sur la première Nintendo DS, à se dire, bon, il y a un écart de tant de centimètres pour le joueur entre l'écran du haut et l'écran du bas. Autrement dit, si on a des jeux qui font passer un élément de l'écran du haut et de l'écran du bas, voici le temps d'attente pour un objet de passer de haut en bas pour éviter que ça ait l'air bizarre.
Ouais.
Le problème, c'est quand Nintendo a sorti une Nintendo DS Lite qui n'avait pas du tout le même écart et qui du coup changeait complètement ses distances-là et qui rendait un petit peu absurde certaines cinématiques ou certains jeux où des objets passaient de haut en bas, ça cassait un petit peu l'effet, malheureusement.
Alors le problème, c'est que ça ne fonctionne malheureusement pas sur tous les écrans, c'est-à-dire ouais. qu'il y a des écrans avec des bords extrêmement larges, et du coup, bah, ça va réduire quand même un petit peu le champ d'application. Mais si vous avez aujourd'hui les écrans modernes ont des bords beaucoup plus fins, moi je regarde mon vieil écran Yamaha qui a 6 ans avec des bords très très larges, et je regarde mon BenQ qui en a 2, qui a des bords qui font quasiment la moitié. Évidemment, si vous avez des bords fins, voire des écrans borderless comme les Skyhawk, Red Eagle ou certains Predator, là par contre, vous les mettez l'un à côté de l'autre, vous posez votre bezel kit free et c'est fini. Alors là, ça, évidemment, le projet va rendre fou les pilotes et autres nababs du triple screen. Pour ma part, je salue d'abord et avant tout la simplicité de l'idée et l'efficacité finale, parce qu'au final, c'est super efficace, même comme si tu le disais, il y a une perte de luminosité. Et je rigole un tout petit peu, parce que quand même, Asus se paye le luxe de coiffer au poteau MSI, qui a présenté en premier ce système-là, il y a déjà un petit moment, mais dont on n'a plus entendu parler.
Ah, c'est bête.
C'est bête, on va au CIS, on présente un truc et c'est les copains qui font autre chose.
Et ce que j'aime beaucoup, en parenthèse, dans cette idée technologique, c'est justement l'absence de devoir se connecter à du courant, l'absence de devoir se connecter à la machine, l'absence de devoir installer quelque chose, de devoir installer un pilote, de devoir installer un programme, tout ce genre de choses-là. C'est juste, vous le mettez en place et si l'écran fonctionne avec, bah, ça fonctionne avec, point à la ligne.
Ah, il suffit de clipser, c'est ça qui est génial.
Voilà, très bien. Et tu as un dernier point, Franck, et pour ce dernier point, tu nous emmènes dans l'espace.
Ah oui, là, je vais vous faire découvrir un truc que j'adore, ça s'appelle l'espace, hein, qui nous entoure dans le vide de cette magnifique Terre ronde et non pas plate, avec un cocorico. Donc Yann, tu me mettras un petit cri de coq au montage.
Un moment tesquet, hein, vu que ça rejoint la France et l'espace.
N'est-ce pas ? Un peu de français dans ce CIS, parce qu'on n'a pas parlé de la French Tech, mais bon, ça c'est une autre histoire. Je vais vous présenter la marque Unistellar qui a présenté son Euviscope, un télescope compact, motorisé mais aussi connecté. Alors c'est la mode de l'Internet of Things, donc de l'Internet des objets, mais il est connecté à quoi ? Ben, à ton téléphone et à une immense base de données d'images de corps célestes qui permettent à l'objectif de l'Euviscope d'analyser et de reconnaître ce que tu observes en temps réel. Le tout en te donnant un tas d'informations sur son histoire, son origine, évidemment, par exemple, sa distance par rapport à la Terre, ses cycles et tout le reste. Alors déjà, ça, c'est plutôt cool, tu vois, t'as un système, un form factor assez compressé, c'est quand même imposant, mais c'est quand même bien. Mais surtout, ce qui en fait la petite saveur et qui va permettre de faire, de démocratiser la science astronomique à tout le monde, du moins c'est le projet d'Unistellar, c'est un système d'exposition rapide. Là, si vous y connaissez rien en photo, je risque de vous perdre, mais en fait, ça fait plein de petites expositions très rapides qui permet d'amplifier, grâce à un système créé par un chercheur du CNRS, d'amplifier la lumière. Et plus ta pose est longue sur une étoile, plus l'image va être détaillée et colorée, donc, et de plus en plus précise. C'est développé, donc, comme je le disais, par un chercheur du CNRS, un chercheur du SETI, donc le CNRS, évidemment, le Centre National de Recherche Scientifique, et le SETI, qui est le Centre de Recherche sur les Vies Extraterrestres.
D'accord.
qui est une boîte, donc Unistellar est une boîte qui contient pas mal de chercheurs. La promesse, c'est d'obtenir des images jusqu'à 100 fois plus précises qu'un télescope normal pour le commun des utilisateurs. Et ça, c'est intéressant. C'est vraiment le but est de démocratiser quelqu'un qui veut aller observer les étoiles avec ses enfants, par exemple, et qui n'a pas envie de mettre 3 500 € dans un télescope de ouf avec un double objectif motorisé et le reste. Là, apparemment, le prix tournerait aux alentours des 1000 et quelques euros et permettrait des images jusqu'à 100 fois plus précises qu'un télescope normal. Bon, avant de vous garantir que ce sera 100 fois, on va attendre les tests pour le certifier. Mais quand même, un petit cocorico sur l'astronomie venu des Français, ça fait quand même vraiment très plaisir.
Bien, bah merci pour ce petit coup de cœur franco-français Franck. Tiens, allitération. Et du coup, j'attaque avec mes petits points à moi. Il commence par Vive, puisque le casque VR est doté désormais d'un adaptateur sans fil. Pour le casque en question, cette technologie avance lentement, hein, celle de la VR. Il y a encore beaucoup de doutes vis-à-vis du jeu vidéo. Est-ce que les développeurs arriveront, on va dire, à créer des expériences plus intéressantes que « Oh, regarde justement l'effet waouh ! On a le casque sur les yeux, on se voit là-dedans. Regarde, je vois mes mains, c'est incroyable. Ouh là là, il fait très très peur le zombie !» Voilà, quelques doutes donc sur le modèle d'interaction, puisque tout cela est très très lent et très très pâteux. Mais voilà, on avance enfin avec des choses plus confortables du côté du casque, puisqu'il n'y aura plus besoin d'avoir ce gros gros câble qui vous suit dans le derrière du dos et qui va soit sur le PC, soit dans le cadre du PSVR sur la console. Alors, si Sony n'a pas encore fait cela, voilà, maintenant HTC avec le Vive le fait avec cet adaptateur sans fil. Moi, ça me rappelle un truc, ça me rappelle la crainte qu'on avait eue, évidemment à l'envers, hein, mais la crainte qu'on avait eue en 2005 quand on craignait d'avoir un câble reliant la Wiimote à la Wii. Là, malheureusement, on l'a eu avec le Vive et cet énorme câble, ce truc qui te poursuit et qui t'empêche de te déplacer confortablement, ce qui est un petit peu dommage quand on parle justement d'immersion. Et c'est désormais, ça va être désormais possible de pouvoir jouer, de pouvoir explorer sans. Ça ressemble également aussi à un bon moyen de la part d'HTC de tirer quelques euros de l'art de la part des gens qui ont déjà craqué, donc de pouvoir faire consommer un petit peu plus les gens qui sont déjà leurs clients. C'est intéressant, c'est chouette comme ça d'évoluer technologiquement. Logiquement de cette manière. J'aimerais également soulever le Smart Vision EQ de Mercedes. C'est une voiture prototype là aussi. Hein. Elle a été montrée, les journalistes pouvaient la tester, mais elle était pilotée par un employé de la marque. Et pour moi, ce type de voiture-là, des voitures sans conducteur, donc sans volant, tout simplement. Je trouve ça très intéressant parce qu'il est vraiment question de repenser l'espace d'une voiture, d'en repenser l'ergonomie. C'est ce type d'amélioration, à mon avis, qui permettra de faire à ce que ce genre de véhicule puisse devenir plus intéressant à l'avenir et puisse devenir des espaces dans lesquels on pourra travailler, où on pourra, d'une certaine manière, sociabiliser, en tout cas discuter un petit peu mieux qu'avec quelqu'un qui fixe la route à fond ou quelqu'un d'autre qui lui fait la direction avec son téléphone dans la main en disant « prends à gauche, prends à droite, mon Dieu, on a loupé la sortie de l'autoroute ». Donc voilà, l'ouverture des portes en cas d'urgence, ça c'est un point qui m'inquiète un petit peu, puisque dans ce prototype là, dans la Smart Vision EQ de Mercedes, qui est quand même un petit peu basé sur tu as des vitres partout, etc., tu peux voir ton environnement, tu es en quelque sorte... mieux entouré, tu es dans une capsule d'observation en fait, finalement, plus qu'une voiture. Tu as les portes qui coulissent vers le haut. Et ça, en matière d'accès de sécurité, je sais pas si c'est idéal, parce que je sais pas vraiment comment tu peux les faire coulisser sans le moteur, sans l'électricité. Je me demande vraiment comment est-ce que ça va être pour le faire passer Euro NCAP et pour leur faire passer tous les tests vraiment importants.
De la même manière que pour les trains, parce que moi, tout ce que tu me définis, c'est un train qui va sur la route et ça m'angoisse absolument vu qu'il n'y a pas de conducteur, tu me connais. Mais pour ouvrir ce genre de portes, c'est des portes élytres, des portes papillons, tu as une petite manette cachée pour desserrer le vérin qui va desserrer les portes. Mais c'est un grand nom, Yann.
Non, effectivement, mais je reste quand même inquiet un petit peu par rapport à ça. Mon grand nom, il n'est pas sur la voiture qui se dirige elle-même, puisque c'est, je veux dire, d'une part, c'est des systèmes qui sont déjà testés. Alors, on parlait justement de train, mais dans le cadre de certains métros, il y a des métros qui tournent sans conducteur et qui tournent plutôt bien. C'est une évolution qui va arriver, à mon avis. Je veux dire, la raison pour laquelle, à chaque fois que vous avez un CAPTCHA proposé par Google et qui vous propose des panneaux de signalisation, c'est un petit peu qu'on est tous, en voulant nous connecter à un compte ou nous connecter à un site, en train d'entraîner Google à pouvoir reconnaître les panneaux de signalisation, les voitures, les ambulances, etc. plus facilement, hein, faut pas se mentir. C'est vraiment quelque chose, un travail de fond de la part de Google depuis des années et qui va, à mon avis, très probablement déboucher sur des technologies de pilotage automatique relativement fiables. Au fur et à mesure, je pense qu'on aura également les autorisations politiques vis-à-vis de tout cela. Toujours est-il, en tout cas ce sera un grand débat à venir, toujours est-il que la question ensuite c'est qu'est-ce qu'on fait dans ces voitures-là. Moi, le principe de montrer la route à tout le monde et de montrer le paysage à tout le monde, je trouve ça intéressant. Par contre, l'ajout d'écran, qui est un gimmick de la part d'autres constructeurs et qui est malheureusement également un gimmick avec Mercedes qui veut afficher des tweets, etc., ça c'est ce qui me fait dire non. Ça c'est ce qui m'inquiète un peu plus dans ce futur-là de l'automobile, finalement. C'est d'avoir des voitures constamment connectées et qui ne te propose jamais en fait de moments de te couper du reste. C'est ce qui est pourtant plaisant avec un voyage en train ou en avion.
Moi, ce qui me dérange, Yann, et c'est parce que je suis un peu plus vieux que toi et je suis plus vieux jeu, j'avoue. Moi, c'est juste qu'il n'y a pas de volant. Tu l'arrêtes comment, le bordel, si t'as un bug?
Je trouve ça personnellement fascinant. Je trouve ça, parce qu'on se pose pas la question pour un téléphérique, on se pose pas la question pour...
Non, mais un téléphérique est un engin de mort par excellence, vu qu'il est retenu par deux câbles tendus et que tu as un conducteur de chaque côté.
J'espère vraiment La loi des grands nombres, on va espérer qu'il y a au moins un de nos auditeurs ou une de nos auditrices qui nous écoute dans un téléphérique en ce moment.
C'est la période du ski, les enfants.
Si vous aviez pas le vertige, là c'est parti.
Paco, toi qui vas skier, j'espère que tu es dans un téléphérique fumier.
Voilà.
Non, mais de base, il y a plein d'engins de mort, si tu veux, des engins que je n'apprécie pas forcément. Les téléphériques, les hélicoptères. J'adore les voitures, j'adore la mécanique, j'aime l'automobile, mais je suis pas forcément à l'aise dans une voiture. Mais une voiture où il y a pas de pilote, il y a pas de volant, il y a pas de frein, et tu n'as aucun moyen d'arrêter cette espèce d'engin lancé à pleine vitesse. Tu parlais du métro. Le métro, c'est sur des rails. Et de toute manière, même sur les métros automatiques, il y a au bout d'une cabine, une cabine de sécurité avec des manettes pour l'arrêter. Pour pouvoir ouvrir les freins de force, ce genre de choses. Là, je vois pas de volant, je vois pas de frein, je vois pas de truc. Ça m'angoisse. Ça m'angoisse terriblement, en fait, encore plus que quand Mago et toi, vous parlez de vos emplois du temps.
Je comprends tout à fait. Après, il y a des questions qui se posent. Moi, par exemple, j'aimerais pas voir ce genre de véhicule-là aller à la vitesse et circuler sur, par exemple, les autoroutes allemandes, qui ont la mauvaise habitude de proposer d'aller très, 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 très vite.
C'est ça.
Je pense que c'est un gros problème. Non. Par contre, je pense que dans certains cas, sur des routes locales ou simplement en proposant, si on introduit ce genre de véhicule, de réduire la vitesse en général. D'ailleurs, j'ai vu, je piche pas l'hystérie collective sur, l'énervement collectif sur « Mon Dieu, on va passer de 90 à 80 km à l'heure, oh, nos libertés !» Bref, je ne conduis pas de voiture, donc c'est probablement pour ça que ça me passe un peu au-dessus du crâne. Je pense que réduire la vitesse, je pense que introduire un certain nombre de facteurs de sécurité supplémentaires par rapport à ça pourrait rendre le truc crédible, plus que si tu introduis simplement une voiture auto qui se dirige elle-même, une voiture automatisée, dans le circuit actuel routier, qui effectivement peut parfois s'apparenter à un charnier. Bien. Écoute, on va passer d'un truc qui te rend sceptique à un autre, si tu veux bien, Franck.
Je t'en prie.
J'avais parlé d'un truc, alors je sais, tu me l'as dit tout à l'heure, moi j'avais pas suivi cette technologie-là depuis aussi longtemps que toi, que ce n'est pas nouveau et que les performances sont un petit peu à remettre entre parenthèses et à remettre en cause, mais l'idée qui est proposée et qui est plutôt retraitée en fait par OLEDcom avec MyLiFi, je l'ai trouvée relativement intéressante. Il s'agit ici donc d'un émetteur sous la forme, dans ce cas-là, d'une lampe, mais ça pourrait être d'autres choses, et d'un receveur, un dongle USB, c'est-à-dire une espèce de petite capsule que vous branchez en USB à votre laptop, vous permet de vous connecter à une connexion internet sans fil via la technologie infrarouge, tout simplement, sans avoir besoin de se soucier d'entrer un mot de passe Wi-Fi. Ce genre de choses. Ce que je trouve très pratique, c'est que cette connexion-là, du coup, tu ne peux y accéder que si tu es physiquement sur le lieu.
Oui.
Où tu es physiquement, où on va dire, la connexion infrarouge est arrosée. Ça peut être pratique pour des raisons de sécurité, avoir accès à cette connexion où ce réseau privé ne peut pas se faire autrement qu'en étant dans une pièce sous la lampe, ainsi que pour offrir un accès facile à une connexion. Et là, je pense à des hôtels, des aéroports, etc., plutôt qu'à se battre avec un formulaire de connexion complètement débile, comme on le voit dans nombreux lieux de ce genre-là. Donc, je trouve que ce contre-Wi-Fi est une chouette idée, non pas pour un usage, on va dire, quotidien et habituel, mais simplement pour des cas de figure particuliers.
C'est intéressant. Après, il y a un truc. Là, il y a plusieurs choses, on va dire, qui m'ont fait lever le sourcil sur MyLiFi, en fait. Le premier truc, c'est que c'est présenté au CES, certes, mais derrière, il y a un Kickstarter. Tu vois, le projet vient de débarquer sur Kickstarter, déjà. Tu vois, les mecs, ouais.
C'est pas le seul projet qui fait ça, malheureusement.
Je sais bien. Moi, ça me bloque.
Parlais de la French Tech tout à l'heure. Il y a beaucoup de coutumiers du fait, on va
c'est
dire.
C'est ça. Je suis peu coutumier de Kickstarter, sauf si vraiment l'assurance du projet
bien
m'intéresse.
Sûr. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la technologie que le produit lui-même. Le produit lui-même, n'importe quelle entreprise peut le faire. C'est une technologie qui existe techniquement depuis 2012.
Par là. Mais c'est une bonne technologie, si tu veux. Le problème, bon, là, pour le projet MyLiFi, on est sur un débit d'à peu près 20 mégas par seconde. Alors, l'argument commercial, c'est oui, comme ça, il n'y a pas d'ondes radio, c'est vachement bien. Bon, je suis un peu saoulé.
Oui, ça.
Je suis un peu saoulé par les gens qui sont là. Oui, alors les ondes, c'est pas bien. Mon compteur Linky fait des ondes. Les mecs, vous avez des lignes de tension qui passent au-dessus de votre tête. Vous avez vos téléphones qui font des ondes. Enfin, je veux dire, vous êtes en votre micro-ondes fait des ondes et il y a des boucliers, il y a des trucs. Et pour l'instant, voilà, quoi, vous n'êtes pas mort, personne n'est
l'espace.
Mort. Et l'espace, vous prenez des rayonnements solaires toute la journée. Mais bon, le Li-Fi, c'est vachement bien parce que sur le plan théorique, je crois qu'on arrive, alors de mémoire, on doit arriver à 200 gigas, je crois, par seconde, 190 ou 200 gigabits par seconde, ce qui est énorme. Là, pour le coup, évidemment, on est aux alentours de 20 pour le MyLiFi de mémoire. Le petit problème, c'est que l'ampoule qui transmet les données vers le dongle, en fait, te sert aussi à éclairer la pièce. Et c'est le principe du clavier Logitech solaire dans un bureau, si tu veux. C'est le signal arrive difficilement si t'es pas bien exposé à de la lumière.
Oui, il y a ça, oui.
Donc du coup, si t'es exposé à la lumière, la lampe elle perd un peu de son intérêt, si tu veux.
C'est tout le paradoxe d'avoir une lampe qui va éclairer ton laptop alors que ton laptop lui-même émet de la lumière.
Voilà.
Enfin,
c'est
le problème.
Ça reste intéressant dans le sens où il y a certains milieux où, par exemple, on ne permet pas. Les téléphones portables où on n'autorise pas le Wi-Fi, je pense par exemple à certains hôpitaux, enfin aux hôpitaux en général, aux maisons de soins, à certaines zones peut-être sensibles aux zones radio, je pense par exemple des bases militaires ou des, tu vois, où eux ils ont leur propre système radio privé et ils n'ont pas envie par exemple d'avoir un Wi-Fi public ou ce genre de choses. Ça peut être intéressant, même ne serait-ce que dans des bibliothèques, pour éviter que tout le monde connecte son téléphone en Wi-Fi et tu te retrouves avec 36 000 devices qui perturbent ne serait-ce que le signal Wi-Fi de base ou d'autres items connectés de l'université ou d'une bibliothèque qui sont connectés eux-mêmes à ce réseau-là et trop de réseaux surchargent le réseau. Là, le Li-Fi pourrait être intéressant.
Donc dans des cas de figure bien particuliers, donc pas pour installer chez vous forcément.
Et puis c'est cher.
Et c'est cher aussi, mais ça c'est le cas de beaucoup de choses qui sont encore une fois traitées au CES. On est dans des cas de figure où on nous présente des produits qui sont pas là avant sortir pour un moment. Beaucoup de prototypes également là-dedans, voire même des Kickstarter. Elite Hip Air, c'est actuellement très cher, hein, c'est $800. C'est une ceinture qui se gonfle comme un airbag lorsque la ceinture reconnaît des signaux délivrés notamment par des accéléromètres, que la personne qui la porte est en train de tomber. Et ça, c'est pas forcément intéressant pour nous qui sommes bien portants et relativement jeunes, n'est-ce pas Franck?
Oui.
Mais c'est idéal pour les personnes âgées, particulièrement victimes de chutes qui peuvent très vite être aggravantes des maux dont elles souffrent déjà. J'ai trouvé ça véritablement intéressant parce qu'encore une fois, qui n'a pas eu une grand-mère, une grand-tante, une voisine d'un certain âge qui chute, qui se blesse et qui doit passer quelques semaines du coup en soins? Ça arrive malheureusement partout. Et d'avoir quelque chose d'aussi simple à mettre en place, c'est intéressant. Franck, tu voulais réagir?
Oui, parce que le principe est super intéressant. Donc ça fonctionne comme une espèce de grande couche pour adultes. Hein. C'est un airbag fessier.
C'est ça.
C'est la marque, c'est Hip Air Airbag for Seniors. Hein. Ils ne s'en cachent pas. Et ce que j'aime bien dans le concept, c'est que c'est venu. Alors c'est une technologie qui existe aussi déjà, qui a été bien utilisée. Elle vient du milieu de la protection moto. La protection de moto, notamment ce qu'on appelle les Hit Air, qui est une marque aussi qui fabrique des protections pour moto, où tu as une petite sangle. Là, par contre, il n'y a pas de gyroscope, il n'y a pas ce genre de choses. C'est un fil avec un anneau relié au réservoir de ta moto. Et si jamais tu es éjecté de ta moto ou si jamais tu t'éloignes trop du réservoir, en fonction de la moto, tu peux régler la hauteur, la longueur et tout ça. Ça va faire craquer l'airbag et là par contre l'airbag va protéger toute ta colonne vertébrale, va gonfler au niveau de ton cou pour protéger ta nuque et éviter le coup du lapin, va enrober les bas de ton casque, va protéger évidemment tes côtes et le reste. Ça c'est des trucs, des vraies innovations qu'on a eu au CES il y a pas mal d'années, qui sont rentrées dans les mœurs et dans la technologie moderne, dans les technologies de protection. Donc je me dis, là évidemment la capsule d'air du hyper est encore un peu large et c'est encore un peu cher, mais ça peut être quelque chose de très très intéressant pour beaucoup de seniors, notamment des seniors à mobilité réduite, qui ont des problèmes de mobilité, pour éviter des grandes fractures du col du fémur, qui sont souvent des trucs très difficiles à gérer, qui amènent à des mois d'hospitalisation pour certains, avec des réductions qui sont très dures. Donc je trouve vraiment que l'idée est géniale. Totalement, même si c'est pas encore totalement au point, ça reste quand même vraiment intéressant.
Enfin, Vivo a présenté son premier smartphone où l'écran contient une zone de reconnaissance d'empreintes digitales. Et j'ai envie de dire, évidemment, c'est pratique, c'est rapide et ça n'a pas les défauts de la reconnaissance par visage. Par exemple, si tu décides, tu peux décider quand est-ce que tu déverrouilles ton téléphone alors qu'une technologie comme Face ID d'Apple sur l'iPhone X te le déverrouille de force à partir du moment où il reconnaît que tu es là et que tu lui prêtes une certaine attention. Je trouve ça vraiment intéressant. Je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup Touch ID sur téléphone et sur tablette Apple, la possibilité de déverrouiller son téléphone sans avoir à taper son code. Je trouve ça véritablement très pratique, très ingénieux, et la possibilité de l'intégrer directement à d'autres applications pour déverrouiller d'autres choses, je trouve ça très chouette également, et d'avoir cela qui pourra revenir du coup et qui pourra se lier de la nouvelle mode de faire disparaître les bordures sur téléphone et peut-être même à l'avenir sur tablette. Alors là, moi je trouve que ça se marie bien et je suis plus favorable à la reconnaissance des empreintes qu'à la reconnaissance du visage, d'autant qu'avec la reconnaissance des empreintes vous pouvez encore choisir les doigts que vous voulez y mettre, tout simplement.
Qu'on va vous couper, tandis que le visage vous êtes dans la merde, je suis d'accord.
C'est ça, Parano, je préfère encore qu'on coupe un doigt. Couper un doigt. Très bien, merci beaucoup Franck pour ce merveilleux dossier où on a décidé de couper des parties de notre corps. On revient dans un instant pour la mise à jour.
Est-ce que vous avez déjà mis le feu aux jeux vidéo? Jay, Fox, Caféine, Alex le serveur et Inks le font à chaque numéro d'étolier. Ils ne se fixent aucune limite pour célébrer leur amour du jeu vidéo, de son histoire et de son industrie. Pour le meilleur, comme souvent pour le pire, ils dépiotent des sujets d'actualité ou reviennent sur des dossiers brûlants. L'Étolier, une émission Radio Kawa. Nous sommes de retour dans Tech2, c'est l'heure de la dernière rubrique, la mise à jour. On commence par le suivi, et le suivi, c'est Apple qui remplace vos batteries de téléphone pour $30 dans le monde entier en 2018, même si votre téléphone passe les diagnostics, c'est-à-dire même si votre batterie fonctionne toujours à partir de l'iPhone 6 jusqu'aux derniers iPhones en date, y compris l'iPhone SE, je précise. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Ça vient évidemment de toute la polémique dont on vous avait parlé, de ce problème lié aux batteries qui était consulté en diagnostic permanent par iOS, et au cas où elles étaient au cas où elles sont d'ailleurs toujours sous dans une situation où elles ne fonctionnent plus autant qu'avant, où leur capacité est réduite après un certain nombre de cycles ou après une défaillance technique autre, eh bien Apple décide de réduire la puissance maximale de votre processeur, de la charge qu'il peut prendre, histoire de faire en sorte que la batterie puisse survivre plus longtemps. Donc, pour répondre un petit peu à la polémique autour justement de l'obsolescence programmée que ça avait créé, Apple décide de remplacer vos batteries pour seulement $30, même si vous n'avez pas d'Apple Care d'ailleurs, je le précise également, à partir de l'iPhone 6. C'est une bonne nouvelle, c'est une chouette nouvelle, voilà, profitez-en si vous le pouvez, très honnêtement. Si vous avez une batterie qui ne va plus pour vous, peu importe ce qu'en dira Apple, elle sera remplacée.
Pour un prix modique en plus, c'est quand même $30, mais c'est quand même bien, sachant que bon, c'est quand même important. Il y a beaucoup de gens qui ont soulevé le fait que voilà, les processeurs de certains iPhones se retrouvaient bridés quand la vie de la batterie baissait. Là, pour c'est le ça. Coup, les gens peuvent se retrouver avec un iPhone, on peut dire neuf, hein, puisque c'est la batterie qui s'use le plus sur ces machines-là, malheureusement. Et c'est franchement un truc sur lequel il faut foncer, pour le coup. Faites-le, quoi, ça vous fera durer votre téléphone encore plus longtemps, donc bingo.
Et je précise également que le processeur ne sera plus bridé à partir du moment où vous aurez la nouvelle batterie dans le petit machin. C'est en tout cas ce que Apple promet. On passe maintenant au courrier des auditeurs, mon cher Franck, et on commence par Bibouzik, qui a une petite question à nous poser qui concerne les tablettes. Il nous dit « Je possède à l'heure actuelle une petite tablette Nexus 7 version 2013 qui commence à se faire vieille et un peu limitée. Pas de port pour carte SD. Sachant que je souhaite demeurer sous Android 7, voire plus, et conserver cette petite taille que je trouve pratique, éventuellement, je ne suis pas contre une taille de 8 pouces, que me conseilleriez-vous d'acheter à l'heure actuelle, les soldes approchant, ou dans les 6 mois à venir ? Il y a à peu près un an de cela, quelques rumeurs annonçaient que Google pourrait peut-être proposer une nouvelle tablette de petit format, mais rien n'a été annoncé depuis. »
Il y a assez peu de modèles 8 pouces. Il y a toujours les Galaxy Tab S et le Google Pixel 6 qui commence à se faire vieux. Faut pas dire Google Pixel C est quand même très vieux. Il y a quelques tablettes encore en 8 pouces, notamment chez Huawei. Mais il n'y a pas de grande annonce et il n'y a pas de grande tendance à revenir faire un form factor 6, 7, 8 pouces. Ça tend à aller vers le 9, voire vers le 10. C'est pour ça que bah, moi aussi, j'avais une Nexus 7, mais j'avais une version 2012, qui est d'ailleurs décédée l'an dernier entre les mains de mon honorable mère. Moi, quand j'ai pu changer il y a 2 ans, j'ai pris une Nexus 7 justement pour garder ce form factor qui me plaisait. Donc, une Shield tablette pour remplacer ma Nexus 7 qui est un peu plus grande, certes, mais qui fonctionnait bien, qui est aujourd'hui introuvable. Et c'est un peu embêtant, oui. On trouve pas beaucoup de 8. Va falloir peut-être tirer vers le 9. Alors, honnêtement, tu gagneras en confort. Tu perdras pas énormément en place, mais tu gagneras beaucoup en confort de lecture. Ça, par contre, il y a vraiment un gain entre le 7 et le 9 pouces niveau lecture.
Effectivement, niveau petite taille, rien du côté d'iOS, même si c'est pas vraiment ce qui t'intéressait. La famille iPad mini semble condamnée. L'iPad mini 4 date désormais d'octobre 2015, donc de plus de 2 ans. C'est une situation un petit peu compliquée pour cette gamme-là. C'est la cannibalisation par les gros téléphones, il faut être clair. Il y a une partie du marché qui est simplement partie là-dedans. On verra bien ce que nous réserve l'avenir, mais pour l'instant, il n'est pas rose pour les tablettes de ce petit format. Habitué de nombreuses réactions, parfois un petit peu lunaires, sur les pages Facebook de Radio Kawa, Hideyuki Makimura nous a posé la question suivante. Attention les amis, Inks ma poule, j'ai bien écouté le Tech 2 sur le matos informatique, mais j'aurais bien... alors aimé. Là, il manque un mot, je pense que c'est aimé que vous parliez des all-in-one dédiés au gaming ou des hybrides écran-tour permettant de monter ses propres composants dessus. Franck, alors, quelle est ta réponse?
Mon petit Yuki, j'aime pas les all-in-one gaming et les tours de fabricants comme les HP Omen et consorts, donc comme on parle que de ce qu'on recommande et que personne ici ne le recommande, on n'en parle pas. C'est aussi ça, mon pépère, voilà.
Bien, Nikouz, grand ami, évidemment ami de la famille, même fait partie de la famille, Nikouz, nous demande, la question a sûrement déjà été posée, mais quid de Spectre et Meltdown niveau console spécifiquement?
Alors, on va commencer par un truc, Microsoft a annoncé le 8 ou le 9 janvier que ces machines n'étaient pas touchées par Meltdown et Spectre, sachant que la PS4 est sur une archi similaire, on peut estimer qu'elles ne sont pas touchées. S'il y a une mage de vos consoles, faites-les immédiatement, réfléchissez pas, et si vous avez mis vos cartes bleues et que vous êtes quand même inquiet, virez vos cartes bleues en attendant d'avoir la mage de la console. C'est tout ce que je peux recommander, parce que niveau performance, de toute façon, vous n'allez pas perdre des masses, hein, de toute façon, sauf si, même sur les Xbox One X, ils disent qu'elles ne sont pas touchées actuellement, il faudra attendre les tests d'experts comme Digital Foundry ou autres. Je pense pas qu'il y aura des grandes différences, vu que le système d'exploitation fonctionne différemment aussi. Il y a pas mal de choses qui fonctionnent différemment, c'est des systèmes fermés. Il y a peut-être des failles, mais elles vont être réglées par des mises à jour des consoles qui arriveront mensuellement ou une mise à jour invisible, et puis voilà quoi.
Digital Foundry a sorti il y a 5 jours une vidéo, mais concernant les PC uniquement.
Voilà.
Donc je l'ajouterai du coup à la page d'épisode sur radiokawa.com. Mais au-delà de ça, très franchement, il n'y a pas 15 000 analyses pour l'instant intéressantes. Nintendo n'a pas réagi sur la question et préfère continuer à se marrer dans sa piscine de pognon en silence.
En toute simplicité.
Ah oui, là c'est le retour d'Inprint Money. Effectivement, la Switch, c'est le grand délire. Voilà, c'est la fin de cet épisode de rentrée de Tech2. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous pouvez nous écrire sur Twitter @tech2rk et tech2@radiokawa.com si vous préférez les mails. Cet épisode a été enregistré le samedi 13 janvier. Merci à toi, Franck, @foxmonsieur sur Twitter, d'avoir été là.
Merci à toi, Yann, @inkshd sur Twitter.
Absolument. Je remercie également Julien Bro pour le logo, Benji Pesque pour l'habillage sonore. Merci à vous les auditeurs et les auditrices. Faites-nous vos retours et rendez-vous dans 2 semaines. Ciao, ciao.
Ciao.
But it's not really a bossa nova. But we think that you will dig this.
Radio Kawa.
Nous sommes de retour, putain.
Attends, point de montage.
Non, c'est bon.
Pardon.
C'est de toute façon une fin de rubrique. Ouais, il y a un point. Oh là là. J'ai pas été bon à certains moments. Bref, c'est pas grave. Dans l'intro, notamment, puis un ou deux points, j'ai pas été bon. Bref.